10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Et oui, même en cette fin d'année, il y a des surprises sur Transistor avec le retour du Monde ne suffit pas, LMNSP pour les intimes. L'émission revient aujourd'hui loin des archives pour un numéro en deux parties consacré à un pays dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière dans les médias, un pays avec un peu plus de 10 millions d'habitants, membre de l'Union Européenne, un pays pourtant peu et mal connu en dehors de son passé antique. C'est en Grèce que nous partons aujourd'hui. Et avec moi en plateau, Sophie Coavou, maître de conférence en grec moderne à l'université Lyon 3. Bonjour.
Bonjour Clément.
Vous êtes avec nous pour un double numéro, le premier consacré à un tour géopolitique dans lequel nous essaierons de comprendre les relations qu'a la Grèce avec ses proches voisins. Et le second numéro, lui, dans la semaine prochaine, sera consacré à la culture grecque, un numéro dans lequel nous parlerons de cinéma et de musique. Marcos Vamvarakis sur Transistor, le grand maître du rebetiko, cette musique grecque sur laquelle vous aurez plus de détails dans le numéro suivant. Mais ça nous permet de nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Alors la Grèce, c'est ce pays qui est au sud de la péninsule balkanique, la tristement célèbre poudrière des Balkans selon l'expression consacrée, un pays qui a une présence très importante en Méditerranée orientale, et les relations avec les voisins, qu'il s'agisse des Balkans ou de la Turquie, sont des relations très complexes, et si on veut les comprendre, il faut remonter au 19e siècle, à ce que l'on appelle la grande idée qui a alimenté et constitué même le nationalisme du jeune État grec. Sophie Coavou, qu'est-ce que c'est que cette grande idée ?
Alors, pour expliquer ce que c'est que la grande idée, bon, comme vous le dites, il faut effectivement remonter au début du 19e siècle et à l'indépendance de la Grèce, hein, puisque la Grèce devient un État indépendant en 1830, bon, d'abord sous la protection, avec des guillemets, des grandes puissances. Et l'identité politique de cet État, de ce jeune État, se constitue au fur et à mesure du 19e siècle pour aboutir justement à cette grande idée qui, elle, naît quand même dès le début du 19e siècle. Alors cette grande idée, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà l'expression, on la doit à un homme politique grec qui s'appelle Ioannis Koletis, dans les années 1830. Et c'est un projet expansionniste, étant donné que l'État grec, une fois l'indépendance acquise, dispose de limites territoriales très petites.
Oui, il est encore moins grand que l'État grec actuel.
Actuel, oui, puisque les frontières actuelles de la Grèce ne sont celles qu'on connaît aujourd'hui que depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, oui, avec le rattachement du Dodécanèse cédé par l'Italie à la Grèce en 47. Et donc... Cette politique expansionniste coïncide avec une ambition donc de construire ce qu'on appelle en Grèce la Grèce des cinq mers et des trois continents, et qui consiste à reconstituer les frontières de l'ancien empire byzantin.
Oui, donc des frontières qui s'étendaient du Danube à la frontière du Taurus en Anatolie, dans sa configuration la plus restreinte.
Donc. Voilà. Et avec, pour certains, l'ambition également de reconquérir Constantinople et pour en faire la capitale de la Mégalie Ellade, de la Grande Grèce.
Donc, et c'est un projet politique qui a alimenté le nationalisme donc de cette jeune Grèce pendant tout le 19e siècle.
Oui, pendant tout le 19e siècle, je vous dis à peu près autour de 1830 jusqu'à précisément 1922. 1922 qui correspond à la défaite de l'armée grecque et au départ d'1,5 million de chrétiens hellénophones, de chrétiens. Enfin, c'est toujours compliqué de parler oui. des Grecs, mais on va dire de 1,5 million de Grecs d'Asie mineure. Et donc, comme l'a dit un des grands auteurs, Théotokos, la grande idée s'est noyée dans le port de Smyrne en 1922.
Alors on va revenir évidemment maintenant sur ces différents éléments, sur cette catastrophe de 1922, parce qu'encore aujourd'hui, s'il y a un voisin avec lequel les relations sont assez complexes, c'est la Turquie.
Les visites d'un premier ministre grec en Turquie sont rares. Celle d'Anthony Samaras ce lundi à Istanbul n'est donc pas passée inaperçue. Il a assisté avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à la cérémonie de signature de 25 accords de coopération bilatéraux en matière de tourisme, de santé, de transport maritime et notamment d'immigration. Et ce, dans le cadre de la réunion du Conseil supérieur gréco-turc créé à Athènes en 2010. Il y a des questions où nous avons nos différences, a souligné Anthony Samaras. Et cette différence pourrait être importante, mais avec des décisions comme celles que nous prenons aujourd'hui, nous essayons de créer des relations de respect mutuel. Nous pouvons donc adopter une nouvelle façon de se comporter.
Alors ça, c'était en 2013. On entend bien derrière la rhétorique diplomatique, on entend bien ces rapports complexes encore aujourd'hui entre la Grèce et la Turquie, parce que pour les Grecs, la Turquie, c'est l'ancien occupant, celui qu'on a chassé au début du 19e siècle, au moment de la guerre d'indépendance, celui sur lequel on a gagné des territoires au 19e siècle. Et la tête de la Turquie, aujourd'hui, c'est Istanbul, l'ancienne Constantinople que vous évoquiez, l'ancienne capitale de l'Empire romain d'Orient, de l'Empire byzantin, avant d'être la capitale de l'Empire ottoman. C'est une ville chargée d'histoire et c'est surtout la ville avec un grand V ou un grand Pi en grec, Ipoli. Mmh. Pourquoi ? Comment expliquer encore ce rapport presque charnel des Grecs à Constantinople ? Ou à Istanbul encore aujourd'hui.
Pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, mais aussi si on se resitue dans la chronologie, cette catastrophe de 1922 en fait a réactivé la blessure de 1453, donc avec la chute de Constantinople, puisque la perte de l'Asie mineure s'inscrivait dans l'espoir réactivé justement dans les années 20 de récupérer Constantinople.
Et parce que Constantinople, même sous l'Empire ottoman et même encore au XIXe siècle, c'est un grand foyer de l'hellénisme.
C'est un très grand foyer de l'hellénisme. N'en déplaise aux Occidentaux qui, pendant longtemps, ont préféré mettre de côté l'héritage byzantin. C'est aujourd'hui aussi le siège, enfin, à Constantinople que se trouve le siège du patriarcat orthodoxe grec, mais où ne vit plus qu'une petite communauté grecque à l'heure actuelle. Mais effectivement, c'est tout ce rêve de la grande idée qui est cristallisé autour aussi de la ville de Constantinople, ce foyer séculaire de l'Hellénisme. L'Asie mineure, c'est le foyer séculaire de l'hellénisme. Et Constantinople, ça vient cristalliser toutes les tensions avec ses frères ennemis que sont les Turcs.
Et c'était finalement pas irréaliste, en plus, au XIXe siècle, dans la mesure où, je crois, il y avait plusieurs centaines de milliers de Grecs qui vivaient encore à Constantinople.
Ah oui, bien sûr. Et puis, globalement, en Asie mineure. Hein. Et c'était d'autant moins irréaliste qu'au départ, c'était... avec le traité de Sèvres, avec le soutien des grandes puissances, que la Grèce comptait récupérer les territoires d'Asie mineure.
Et alors justement, on en vient à ce fameux traité de Sèvres, puisqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les Grecs, vous le disiez, ne semblaient finalement pas très loin de reprendre la ville. Si les grandes puissances ne leur accordent pas dans le traité de Sèvres, l'armée grecque n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres en 1920, et le rêve ne paraît pas du tout irréalisable. Ce traité de Sèvres, il donne un certain nombre de territoires dans le contexte de démantèlement de l'Empire ottoman à la Grèce, dont la région de Smyrne, l'actuelle Izmir, et cette ville ville de Smyrne, cette Izmir, elle est au cœur de ce qu'on a appelé la grande catastrophe en 1902, qui signe, vous le disiez, la fin de cette grande idée.
Oui. Alors effectivement, à l'issue de la Première Guerre mondiale, donc la Grèce fait partie des vainqueurs, et se profile l'annexion. Dans le cadre du démantèlement de l'Empire ottoman, de certaines régions d'Asie mineure. Le traité de Sèvres donne l'impression que cette grande idée est à portée de main. Alors, pour la question des territoires, dans un premier temps, on accorde à la Grèce l'administration de ces régions pour une période de 5 ans, hein, au départ. Le problème, c'est que dans les faits, dans l'arrière-pays de Smyrne notamment, l'administration grecque est aux prises avec une présence turque hostile. Mmh. Et c'est précisément pour cette raison que la Grèce envoie en fait l'armée pour essayer de maîtriser un petit peu, cette situation. Et bon, après, on pourra en venir précisément. Il y a aussi toutes les questions des persécutions, hein, que subissent les Grecs et évidemment les Arméniens, hein, ce qu'on connaît plus, notamment en France. Le gros problème, c'est que Atatürk, donc Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne, qui est à la tête du mouvement national turc, refuse les dispositions prises à Sèvres et à Versailles.
Ouais, et refonde un État turc, voilà, dont le but est de récupérer l'ensemble de l'Anatolie.
Voilà. Et il déclare la guerre d'indépendance turque, enfin ce qu'il appelle la guerre d'indépendance turque. Suite aussi à des péripéties internes en Grèce, qui voit revenir le roi Constantin, qui est germanophile, hein, sur le trône de Grèce, la Grèce perd l'appui des grandes puissances.
Donc de la France et de l'Angleterre, voilà, principalement.
Et qui font volte-face, puisqu'elle signe un accord avec Kemal Atatürk. Mais dans ce contexte, le roi Constantin, à la tête de l'armée, donc part, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, jusqu'à Ankara, hein, le fief des nationalistes turcs. Et c'est la débâcle. En faisant des bonds dans le temps, aboutit essentiellement en 1922 à l'incendie de Smyrne.
Oui, c'est ça, cette grande catastrophe.
C'est cette grande catastrophe. L'incendie de Smyrne avec, évidemment, sans rentrer dans les détails, un chaos indescriptible de viols, de pillages. L'archevêque grec orthodoxe est livré à la foule et taillé en morceaux, littéralement.
Et puis Smyrne, en plus, c'était l'autre, avec Constantinople, l'autre grand foyer de l'hellénisme au XIXe siècle.
Voilà, oui. Alors, il y avait aussi d'autres, je pense à Alexandrie, hein, qui est aussi un des grands foyers de l'hellénisme à cette époque. Mais effectivement, Smyrne, et qui était une ville très prospère, un très grand port de Méditerranée, comptait une population grecque très nombreuse et également assez puissante, puisque les populations juives notamment, le secteur bancaire, économique, était entre les mains de ces populations-là. Hein, donc c'était vraiment des forces vives de l'hellénisme, hein, si on ne parle que des Grecs qui vivaient à Smyrne.
Et puis c'était des Grecs aussi du coup très cultivés, vu qu'on était dans des classes sociales.
Voilà.
C'était un milieu littéraire aussi très important.
Oui.
Et du coup, effectivement. Et du coup, donc on a ce grand incendie de Smyrne, ce chaos, ces persécutions. Quelle est la conséquence finalement de cette grande catastrophe en termes pour les populations?
Alors pour les populations, la première conséquence, c'est l'échange forcé de population. On peut même parler de déportation, hein, c'est ce que je vous disais. Alors tout le monde ne s'accorde pas, évidemment, pour des raisons qui sont faciles à comprendre sur les chiffres.
Il y a des contentieux biologiques et
géopolitiques. Voilà, très fort. Donc si on retient 1,5 million de Grecs qui doivent quitter l'Asie mineure, bon, on mesure évidemment l'ampleur des dégâts, et qui vont trouver refuge d'abord en Grèce, dans les grandes villes, hein, Athènes, Thessalonique. Il faut aussi souligner que l'accueil qui est fait à ces réfugiés d'Asie mineure et
dans
parfois
les villes de Grèce continentale, oui,
assez mitigé en Grèce, hein, puisque bon, il y a un problème identitaire, mais il y a aussi un problème strictement économique, hein,
comment accueillir 1,5 million de personnes,
voilà, précisément. Et en plus de ce traumatisme humain, donc vient s'ajouter un traumatisme économique, hein, qui vient complexifier cet accueil des réfugiés. D'ailleurs, beaucoup de réfugiés ne feront que passer par la Grèce pour partir ensuite à l'étranger, notamment en France. Voilà.
D'accord. Et donc c'est pour ça que vous nous le disiez, cette catastrophe de Smyrne signe la fin de la grande idée, parce que l'hellénisme est finalement expulsé de son foyer le plus ancien, qui est l'Asie mineure. Alors, on comprend encore aujourd'hui les conséquences que ça peut avoir dans les relations entre les deux pays. Ces relations sont loin d'être encore pacifiques. Et pour un dernier élément de ce tour géopolitique dans les relations gréco-turques, une question qui est très importante, c'est la question chypriote, parce que c'est une question encore malheureusement très actuelle, puisque depuis 1974, l'île est séparée en deux. Une partie est une république pro-turque qui n'est reconnue à l'international que par la Turquie, tandis que la seconde partie, grecque, est, on le sait, depuis 2004, un État membre de l'Union européenne. Comment comprendre cette situation en 1974?
Oui. Alors là aussi, même en faisant rapidement, on est obligé de revenir à la fin du 19e siècle pour vraiment comprendre l'évolution qui a abouti justement à cette crise chypriote, puisque à la fin du 19e, donc en 1878, l'Empire ottoman cède l'île de Chypre aux Britanniques. Hein, c'est un protectorat qui deviendra ensuite une colonie en 1925. Et petit à petit, sous l'influence de la Grèce, les populations orthodoxes développent une culture, une identité grecque de plus en plus forte qui va aboutir à la revendication de ce qu'on appelle en grec l'énosis, c'est-à-dire l'union, hein, l'union, le rattachement
avec la Grèce, à la Grèce continentale.
Voilà. Oui, ce que j'ai oublié de dire et qui est très important, c'est que à la fin du 19e siècle, la population de l'île de Chypre est composée d'une majorité d'orthodoxes et d'une minorité musulmane. Hein. Alors, dans les années 50, c'est une des grandes étapes avant d'arriver à 74, la situation change, notamment du point de vue de cette revendication de l'énosis, puisque les Britanniques ne veulent rien entendre. On arrive à des tensions qui voient émerger un groupe terroriste chypriote qui s'en prend aux intérêts britanniques sur l'île. Et pour régler ces tensions, les Britanniques organisent une conférence qui réunit le Royaume-Uni, hein, la Grèce et la Turquie en 1955. Et c'est là vraiment que les choses commencent à se gâter, puisqu'en invitant la Turquie à la table des négociations, les Anglais en fait contribuent à transformer d'une certaine manière un problème qui était au départ un contentieux interne de caractère colonial en conflit interethnique.
Oui. Et international.
Et international, oui, parce qu'effectivement, dans l'histoire de Grèce et sur la question chypriote en particulier, l'intervention des puissances occidentales est toujours d'un poids
assez fort.
Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, en invitant la Turquie, parallèlement, il suscite également une peur chez les populations musulmanes turques de l'île de voir l'île de Chypre rattachée à la Grèce.
Et la peur d'éventuelles persécutions.
Voilà.
Qui pourrait en découler de la part des Grecs.
Voilà, et donc face à l'énosis, à la revendication de rattachement à la Grèce, les Chypriotes turcs opposent le Taksim, hein, donc la partition de l'île entre un côté grec et un côté turc. Et donc suite à ces tensions qui sont à leur paroxysme lors de la conférence, a lieu un attentat qui frappe un lieu hautement symbolique, hein, le consulat turc de Thessalonique, qui est abrité dans la maison natale
de
Kemal Atatürk. Et suite à cet attentat, dans la nuit même, ont lieu à Constantinople, donc un pogrom visant les Grecs d'Istanbul, des pillages, des profanations aussi d'églises orthodoxes et de cimetières, notamment le cimetière où reposent les patriarches. Et on saura d'ailleurs par la suite que cet attentat avait été commandité par Ankara comme une provocation. Hein. Et simplement, voilà, à partir de ce septembre noir, hein, comme on l'appelle en Grèce, déjà à Constantinople, on voit un nouvel exode des populations grecques de la ville.
Et puis maintenant, c'est de là que finalement date le dernier grand départ de
Le dernier grand départ,
parce qu'aujourd'hui,
voilà,
il n'y a plus que 5 ou 6 000 Grecs à Istanbul.
Je crois que vous êtes même assez généreux, hein, il me semble que c'est moins. Et surtout, ces tensions intercommunautaires qui, à partir de cet attentat de 55,
sont vraiment très fortes.
Sont très, très fortes. Bon, l'île ensuite obtient son indépendance en 1960, mais avec, bon, encore une fois, un gros problème, c'est que c'est un triple protectorat.
Oui.
Les Britanniques, la Grèce.
Et la Turquie.
Et la Turquie. L'autre grande date à retenir avant d'arriver à 1974, c'est qu'en 1963, donc, le président de la République, chef de la communauté orthodoxe de l'île, Mgr Makarios, propose à son homologue turc une série d'amendements à la Constitution. Alors, c'est très mal vécu par la population musulmane de l'île, et la Turquie réagit en bombardant Nicosie, et c'est suite à ces événements, d'ailleurs, que l'ONU crée une force spéciale qui est toujours présente, d'ailleurs, aujourd'hui,
sur l'île, à Nicosie.
Voilà. Mais en 64, au moment de la création donc, de cette force spéciale, l'armée turque est prête à envahir l'île. Et c'est uniquement sur l'intervention des États-Unis
qu'ils n'envahissent finalement pas, pas l'île. Oui.
Et 10 ans plus tard, bon,
donc
évidemment,
on
arrive en 1974, le contentieux n'est absolument pas réglé. Et la dictature grecque a à sa tête à ce moment-là le colonel Ioannidis, qui fomente le projet de faire assassiner Mgr Makarios, d'imposer l'énosis. Et il est soutenu d'ailleurs par la CIA. Hein. Donc le coup d'État contre Makarios a lieu en juillet 1974. Il en réchappe. Et 5 jours plus tard, l'armée turque, donc sous le prétexte des menaces qui pèsent sur la communauté musulmane de l'île, envahit l'île par le nord et occupe dans un premier temps 15% du territoire. Voilà. Donc très vite, il y a un premier cessez-le-feu et des négociations sont ouvertes à Genève. Et malheureusement, pendant ce cessez-le-feu et ces négociations, l'armée turque progresse et consolide ses positions jusqu'à arriver à la ligne actuelle de démarcation entre la partie nord et la partie sud. Et
qui n'a plus bougé depuis
1974. Qui n'a 74. Plus bougé depuis hein, et qui arrive à recouvrir donc 37% du territoire, des 15% qui avaient été occupés au tout départ de l'invasion.
Et alors le contentieux, il est absolument pas réglé aujourd'hui, on entend peu parler dans l'actualité, mais il est pas réglé du tout. Et en grec, il me semble qu'il y a un proverbe qui résume bien finalement dans le cadre de situations impossibles, qui fait référence à la question chypriote.
On disait « salishou metokypriakon », donc littéralement ça signifie « on ne va pas résoudre la question chypriote ». Et bon, c'est une métaphore certes un peu cruelle, mais très parlante, qu'on utilise pour toute situation inextricable, comme celle de Chypre. Hein. Puisque bon, le plan Annan a été un échec. On ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a régulièrement des tensions, des provocations, des problèmes. Là, on est rentré dans une phase de reprise des pourparlers. Depuis quelques années, puisque le président de la partie turque et le président de la partie grecque sont dans un processus justement dans une politique de main tendue.
Oui. Au moins de détente.
Au moins de détente. Alors moi personnellement, sans être spécialiste de la question, je ne vois vraiment pas comment on pourrait arriver à une résolution, puisque un certain nombre de problèmes de taille subsistent. Alors il y a la question des expropriations, la question des colons aussi, puisque après avoir envahi le nord de l'île, la Turquie a envoyé des colons
pour peupler,
et qui ont modifié la réalité démographique du nord de l'île. Aujourd'hui, comment faire? Plusieurs générations sont nées et qui sont de droit originaires de l'île. Vous voyez, c'est extrêmement complexe. Et finalement, le problème essentiel dans la question chypriote aujourd'hui, c'est la Turquie.
Oui. Et alors, donc, j'espère, chers auditeurs, que cela vous permettra de comprendre un petit peu mieux cette situation avec sur la question chypriote. Il n'y a pas qu'avec la Turquie, pourtant, qu'il y a des contentieux diplomatiques, puisque la Grèce a un autre contentieux, cette fois à la fois diplomatique et culturel, avec un voisin, la Macédoine. Qu'est-ce que c'est que ce contentieux avec la Macédoine ?
Alors, ce contentieux avec la Macédoine, là on va remonter un petit peu moins loin, mais il faut quand même remonter au début du XXe siècle, avec le traité de Bucarest et le partage de la Macédoine, donc en 1913. Alors, la région Macédoine était ottomane depuis le XIVe siècle, et y vivaient des populations de cultures des plus diverses que plusieurs nationalismes balkaniques ont essayé de récupérer. Donc on ne va peut-être pas rentrer vraiment encore une fois dans les détails. Tito avait encouragé l'émergence d'une identité nationale macédonienne, essentiellement pour une raison, je dirais, stratégique, puisqu'il voulait utiliser le nationalisme macédonien comme le cheval de bataille pour l'annexion de Thessalonique, afin de la Macédoine grecque, voilà, à la fédération communiste bulgaro-yougoslave qui préparait.
Oui, et puis pour avoir ce port Thessalonique qui est un des très grands ports de la Méditerranée.
Voilà, et un accès à la mer, voilà. Et la Yougoslavie de Tito avait, contenu les expressions les plus violentes de ce nationalisme macédonien. Qui s'est beaucoup d'ailleurs développé à travers les émigrés, à travers la diaspora macédonienne à l'étranger, qui s'est dotée par exemple d'une historiographie spécifique. Mmh. Je dis par exemple, mais en fait c'est essentiellement là que le bain blesse. Et en 91, lors de la proclamation d'indépendance de l'ancienne République yougoslave, on a vu donc une revendication, une adoption de certains symboles. Mmh. Associé à l'histoire antique de la Macédoine.
Et donc Alexandre le Grand, évidemment.
Le soleil de Vergina, Alexandre le Grand, essentiellement Alexandre le Grand. Et la Grèce, évidemment, s'est opposée à ce qui était à ses yeux, la récupération de symboles qui étaient volés à l'hellénisme, à la culture, à la culture grecque.
Et parce que le macédonien d'aujourd'hui, en plus, n'est pas une langue grecque, c'est une langue slave.
Non, voilà.
Et donc il y a.
C'était le principal argument, sans même parler de la langue, c'était le principal argument des Grecs dans l'optique grecque, le caractère slave de ce nouvel État ne permettait pas.
Une récupération
de l'hellénisme, étant donné que l'arrivée des Slaves dans les Balkans arrive infiniment plus tard que cet héritage antique très antérieur.
Hein. Et le contentieux est toujours pas réglé aujourd'hui, mais non plus, il commence à y avoir des discussions plus apaisées.
Pour la question des symboles, c'est une chose. Aujourd'hui, le contentieux, il porte surtout sur la question du nom. Du nom Macédoine.
Oui.
Bon, le problème n'est pas réglé, ça c'est certain. Ces tensions, elles s'expriment essentiellement dans le refus entre Athènes et Skopje, dans le refus de la Grèce qui fait usage de son droit de veto pour empêcher la République de Macédoine de rejoindre les rangs de l'OTAN. Et dans l'actualité plus récente, ces tensions, on les retrouve autour de la question migratoire.
Oui.
Au niveau de Idoménie, dont tout le monde a entendu parler.
Ce camp de réfugiés.
À ce jour, Athènes et Skopje sont toujours en froid.
Alors, on a fait un petit tour géopolitique en Méditerranée, dans les Balkans, et on va, dans la deuxième partie de ce diptyque, aborder la culture grecque de l'intérieur. Mais avant cela, il y a une question qu'il est important de se poser, surtout en France, où la tradition des humanités classiques reste encore très forte. Quand on parle de Grèce aujourd'hui, de quelle Grèce parle-t-on ?
Oui, alors moi c'est souvent une question à laquelle je suis confrontée puis que je me pose très régulièrement, puisque tout simplement en tant qu'enseignante et chercheuse en grec moderne, très souvent, quand je dis grec, pour tout le monde, on arrive à circonscrire un petit peu la culture dont il s'agit, et dès que j'ajoute le qualificatif moderne, tout le monde est perdu. Alors effectivement, la Grèce antique a été vraiment érigée en idéal quasiment mythique hein, par l'humanisme occidental. Mais l'Occident a sa part de responsabilité justement dans cette espèce de clivage qui n'a pas lieu d'être hein, en théorie, enfin dans l'histoire, puisque dès l'indépendance grecque, c'est un mythe néoclassique romantique qui a voulu faire des Grecs de l'époque les descendants des Grecs de l'Antiquité.
Oui. Alors qu'il s'est écoulé 2500 ans, qu'il y a eu de multiples mouvements migratoires, qu'il y a eu d'énormes changements, ne serait-ce que dans le peuplement, tout simplement, sans parler des changements culturels.
Voilà. Et donc, effectivement, c'est cette Grèce-là qui était venue chercher les Philhellènes au XIXe siècle.
Et qui ont parrainé l'indépendance grecque, qui ont poussé les États européens à aider l'indépendance grecque.
Voilà. Et donc, ce mythe de, enfin, de la continuité, hein, c'est-à-dire une sorte de généalogie reconstituée, a été complétée ensuite dans des versions différentes, notamment par le grand historien Papaléopoulos, un grand historien grec, qui a, lui, réhabilité Byzance. Hein, et donc, alimenté une idée de la continuité, hein, de l'hellénisme, mais sans s'appuyer déjà sur le critère de la race, hein, oui. Yenos, et vraiment en réhabilitant Byzance, ce que n'avaient pas fait les penseurs les prédécesseurs. Hein.
Et une Byzance qui en a encore bien besoin d'être réhabilitée quand on voit l'état des études, malheureusement, sur le sujet.
10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines.